dans cette région. Il y a une grande force dans ce repas, il y a une grande force dans notre présence ensemble aujourd'hui. Et donc, alléluia. Allez, j'aimerais juste prier. Seigneur, merci, c'est vrai, pour le corps de Christ. Merci pour cette réalité qui est la nôtre ce matin, Seigneur. Merci, merci, car tu es avec nous. Merci pour ta grâce qui nous couvre, Seigneur, aujourd'hui. Je veux juste remettre ces moments de partage entre tes mains maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc hier, j'ai fait un exploit. Je suis parti faire le semi-marathon de Lille. Et je suis bien parti, hein. Je suis bien parti. Mais c'est la fin, c'est... Ouais. 21 kilomètres, ouais, semi-marathon. Mais bon, j'ai dit, bon, si je veux survivre, il faut que j'aille lentement. C'est toujours la clé, hein, de ne pas partir trop vite. Donc, je ne suis pas parti trop vite, mais j'étais toujours fatigué à l'arrivée. Mais bon, je suis arrivé en 2 heures. Donc, voilà. Les bons coureurs, ils font ça dans 1 heure. Hein. Les Kenyans, il n'y avait que des Noirs. Hein. Il y avait 10 Noirs dans les premiers 10 places. Après, je pense même les premiers 15 places. Et après, c'était des Asiatiques. Et après, il y avait moi, non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Et donc, j'aimerais lire un passage de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 6. Luc chapitre 7, et à partir de verset 11 à 17. Et donc Luc chapitre 7, 11 à 17, et c'est l'histoire du ministère de Jésus. C'est une guérison que Jésus a opérée, une résurrection. Je vais juste lire le passage, et donc Luc chapitre 7, 11 à 17. Or il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Alléluia. Attends, je vais juste fermer la porte. Juste l'histoire de Jésus qui est venu parmi nous. J'aimerais dire deux choses de ce passage. C'est la première chose, je vais juste lire, faire une sorte d'étude du passage, et après je vais vous raconter comment ce passage m'a parlé personnellement. Parce que souvent dans notre lecture de la Bible, bon, il y a un peu le sens du passage, on peut lire, mais après il y a quelque chose de très subjectif dans la parole. Et ça, c'est aussi très utile pour nous de pouvoir recevoir la parole d'une manière subjective et quand la parole nous touche. Et donc, je vais utiliser ce passage, premièrement, juste une petite explication du passage, et après, je vais témoigner de comment ce passage m'avait touché. Et donc, premièrement, voilà, Jésus, il est avec la foule. Il est actif. Il n'est pas isolé. Il s'est vraiment incarné au milieu des réalités de l'humanité. Et il est près de la porte de la ville, il y a une grande foule avec lui. Et tout d'un coup, il voit un mort. Et combien de fois nous voyons des morts à la télé, dans nos familles, La tragédie de la mort, c'est le fruit du premier péché de l'homme. Dieu n'a pas inventé la mort. Hein, il a créé un jardin d'Éden pour l'homme, pour qu'il vive heureux. Vraiment, Dieu a créé un contexte de bonheur pour l'humanité. Mais l'homme a raté ce contexte de bonheur en faisant de mauvais choix, en péchant. Et après, c'est ce péché qui a engendré la mort et toutes les pleurs et toutes les larmes de notre histoire. Mais Jésus, il ne s'est pas éloigné de cette réalité. Il est venu racheter cette erreur. Il est venu racheter tout cela. Et donc, on voit que tout de suite, dans son incarnation, Dieu avec nous sur la terre, il n'est pas séparé des problèmes de l'humanité. Il n'est pas là dans uniquement avec les pharisiens séparés. Mais il est avec, incarné dans la réalité. Et tout d'un coup, il y a cette réalité de la mort. Et c'est pas juste une statistique pour lui. C'est une réalité. Et on voit même, comme Luc raconte ça, fils unique de sa mère. Waouh! Là, on peut même presque sentir en Luc toute l'émotion liée à cette histoire. Quand on pense à un fils unique qui est perdu et la veuve qui est là. Et donc, quelle tragédie! Jésus est entré au milieu des larmes, au milieu de la tragédie de ce monde. Et verset 13, le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Ah, j'aime bien cette phrase parce que ça montre la réalité de Jésus, pas juste il y a 2000 ans, mais même aujourd'hui, pour chacun de nous. Il y a le regard du Seigneur, premièrement. Il y a le regard du Seigneur sur chacun de nos vies. Le Seigneur la vit et le Seigneur me voit. Il y a un regard du Seigneur sur ma vie. Seigneur me voit. Regarde-moi, Seigneur, regarde-moi. Et quand il me voit, sans doute il voit mon péché. Sans doute il voit la désolation. Peut-être il voit toutes sortes de choses. Mais la vue de Dieu est toujours accompagnée par sa compassion. La miséricorde triomphe du jugement. En Dieu, il voit toute la réalité, il voit toute la réalité de ma vie, mais il voit et il a eu compassion. Et ça nous fait rappeler Matthieu 9, 36, à le regard des foules, hein, à la vue des foules, Jésus, il a eu compassion. Et après, il a dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et je pense que, je ne sais pas si je comprends vraiment la compassion de Dieu. Le mot grec là, ça parle de quelque chose des tripes, qu'on sent, que Dieu, quand il regarde ce monde. Parce que nous, on est fait à l'image de Dieu. Et même nous, quand on est devant des tragédies, souvent, on sent ces tragédies à l'intérieur de nous. Même en regardant la télé, quelquefois, on sent, sont impuissants devant des choses. Et on a dans nos tripes un désir de faire des choses, et combien plus Dieu, combien plus. Je pense que la compassion, c'est vraiment un attribut de Dieu, quelque chose qui est en lui, sa compassion pour les faibles, pour les perdus, pour les pécheurs, pour les gens dans des problèmes. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle, et peut-être il a dit quelque chose aussi. On voit qu'il y a le regard, il y a le sentiment, mais il y a la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ne pleure pas. Waouh! Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu as pu dire ça? Parce que c'est une veuve qui a perdu son unique enfant. Et tu dis, ne pleure pas. Mais je pense que Jésus, il pouvait dire, ne pleure pas, parce qu'il savait que la mort, les larmes, n'étaient pas la dernière réalité de l'éternité. Il sait que lui-même, il va vaincre la mort par sa résurrection. Et il veut que cette femme puisse regarder au-delà de l'aujourd'hui, au-delà de sa réalité présente, et d'avoir un regard vers cette puissance de résurrection. Ne pleure pas. Et c'est la même chose, bon, il faut rester en Luc 6, mais en Apocalypse, hein, il y a quelque chose d'extraordinaire en Apocalypse, chapitre 5. Et c'est un peu comme le ciel est ouvert pour Jean, et pour l'apôtre Jean quand, voilà, quand il y a, quand toutes les sceaux de l'histoire du monde sont ouverts, toutes ces réalités du jugement, et Jean, il a une révélation du cœur de Dieu, et il voit au cœur du trône, au cœur du trône, verset 6, là, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. » Et là, je trouve ça incroyable que, au milieu du trône de Dieu, le lion de Juda, le grand Dieu, là au centre de sa puissance, au milieu de toute l'histoire, au milieu de l'Église, il y a un agneau. Et le mot grec là, c'est un petit agneau, un tout petit agneau debout qui semble immolé. Alors là, dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu, il y a aussi cette vulnérabilité d'un côté, ce cœur brisé, cette compassion. C'est pour ça que Jésus a eu compassion, parce que c'est encore cet attribut de Dieu au cœur du trône. C'est vrai qu'il y a le jugement de Dieu, il y a la justice de Dieu. Heureusement qu'il y a tout cela, qu'il y ait tout ça, la justice de Dieu. Mais au cœur de tout ça, il y a la compassion. Et à cause de ça, verset 4, Jean il dit, « Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. » Et c'est vrai que le livre de la mort, de la souffrance, nous avons tous nos livres, hein, si on commence à ouvrir nos livres, et de lire des pages, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, bon, il reste encore des chapitres à écrire. Mais je ne sais pas, ce serait intéressant de lire le livre de chacun. Mais sans doute, il y a des moments quand on dit, mais Seigneur, c'est impossible de régler tous ces trucs-là. Dans quelques chapitres-là, c'est dur. C'est très, très, très dur, ce que je lis. Et Jean pleurait parce qu'il n'y avait pas une solution pour la souffrance de l'humanité. Il n'y avait pas une solution. Et il pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait que la... Bon, il y a le jugement, il y a la loi et tout ça. Mais il n'y a pas une vraie solution. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre, de regarder dedans, de régler le livre de la vie de l'humanité et peut-être de régler même le petit livre de ma propre vie. Et verset 5, « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. » Waouh. « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Et c'est sept sceaux. Et il y a quelqu'un qui a vaincu. Nous venons de célébrer sa victoire avec la Sainte Cène. Mais Jésus-Christ a vraiment vaincu. Il n'a pas juste vaincu théoriquement. Il a vraiment vaincu le mal. Il a vraiment vaincu la souffrance, par sa propre souffrance. Et il n'y a que lui d'un côté qui peut dire « ne pleure pas ». Et comme il dit à cette veuve « ne pleure pas ». Pour moi, ça fait écho d'un côté de tout ce que Jean a entendu en Apocalypse. Et je pense que chaque fois que nous sommes tout près de Jésus, nous entendons cet écho. Nous entendons au fond de nous-mêmes, même au milieu de nos larmes, « ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas ». Et donc, juste dans ce verset 13, le Seigneur, la vie, il y a le regard de Dieu sur nous, il y a la compassion de Dieu sur nous, et il y a l'encouragement, une parole qui nous exhorte à la foi, une parole qui nous exhorte à l'espérance, c'est-à-dire, voilà, ma vie ne va pas finir en larmes si j'ai cette foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est sûr. Il y aura un jour où toutes les larmes vont être séchées, tous les cœurs brisés, guéris. Mais c'est impossible, oui, c'est impossible pour l'homme. C'est impossible pour la philosophie. C'est impossible pour toutes ces choses. Mais tout est possible pour Jésus-Christ et tout est possible pour celui qui croit en Jésus. Donc, ne pleure pas, ne pleure pas. Et après, on voit cette incarnation. Il s'approcha et toucha le cercueil. Wow. Dieu n'est pas lointain. il y a cette approche. Et après, Dieu a touché le cercueil. Et pour un rabbin, ça c'était la chose à ne pas faire. Les gens, ils ne voulaient pas être impurs. Toucher la mort, il faut lire toute la loi. Toute la loi, il faut éviter de toucher, il faut éviter de toucher, il faut éviter de s'approcher. Mais quand les pharisiens allaient dans cette direction, Jésus, il allait dans l'autre direction. Et il a accompli la loi. Il n'a pas dit, c'était pas une sorte de compromis de dire, voilà, oh, la mort c'est super, ouais, c'est pas grave. Non, la mort est tragique, terrible. La mort avait le jugement de Dieu dessus. Mais Dieu, il a touché. Parce qu'il savait qu'il pouvait tout prendre dans cette croix, dans sa mort, dans sa compassion, dans ses entrailles qu'il allait aimer jusqu'au bout sur cette croix. Et donc ça lui donnait accès. Écoutez, ça lui donnait accès à la réalité de ce monde. Et donc il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et après, il parle encore, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oh, » Il faut avoir la foi pour dire ça un mot, hein, quand même. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se met à parler. Bon, c'est un miracle, hein, on va pas vivre ça littéralement chaque jour. Mais quand je dis, « Mais Seigneur, ta parole, quand Jésus nous parle, même quand la parole vivante nous parle, ça peut donner la vie là où il y a la mort. Là où il y a les choses cassées, là où il y a les choses brisées. Juste cette parole de Jésus, ça peut donner la vie. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandait à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Dieu a visité son peuple. Le mot visiter en grec, c'est quelque chose comme episcopai. Et c'est là où on a le mot évêque. Mais épi, ça veut dire de couvrir. Et scopé, c'est une ombre. Et donc c'est un peu le mot d'être couvert par l'ombre de quelqu'un. Et je dirais que Dieu, son ombre de lumière, nous couvre. Et la vraie discipline dans la vie n'est pas juste des évêques. Bon, il faut des hommes et des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église et tout ça. Mais le grand évêque, c'est Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous couvre de ses ailes. Et Dieu a visité son peuple. Dieu n'est pas absent de notre vie. Dieu, il est là et il nous couvre de ses ailes. Et il nous regarde. Et il a ce regard de compassion. Et il a une parole qui dit « ne pleure pas ». Et il a une parole pour nous qui dit « allez, lève-toi, lève-toi ». Parce qu'il nous couvre, comme un père qui veut que son petit se lève. Il veut notre bien. Il veut qu'on réussisse notre vie. Et donc Dieu a visité son peuple. Et je pense que nous, là, à l'époque de Jésus, Jésus était limité. Il pouvait pas être partout, en tout lieu, tout le temps. Il était là, un nain, à un moment donné de sa vie. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, Jésus est avec nous tout le temps. Et on peut faire appel avec lui, on peut avoir confiance en lui, on peut agir et crier à lui par la foi. Et Dieu a visité et il est resté avec son peuple, il est resté dans l'Église et il est avec nous. Dieu a visité ma famille, Dieu a visité là où je travaille, Dieu a visité, Dieu est là avec nous. Là où on se trouve. Alors là, ça c'est très encourageant. Quand je lis tout ça, je dis, mais Seigneur, ça, c'est merveilleux. Et sans doute, on pouvait faire une étude biblique ensemble et chacun pouvait tirer quelque chose et dire, oh, mais c'est merveilleux comment le Seigneur nous parle. Mais j'aimerais conclure un peu avec un petit témoignage, parce que moi, je connais bien ce passage. Et en février, je suis allé voir ma mère. et devait se faire opérer. Et donc, bon, j'avais 54 ans hein, quand je suis allé voir ma mère. C'est toujours 54 ans, hein, c'est pas encore 55. Mais, waouh, un homme de 54 ans, hein, je suis père, j'ai des enfants et tout ça. Mais mince, j'ai toujours des problèmes avec ma mère. Tu sais, je suis comme un garçon de 16 ans quand je suis avec ma mère. Tous les trucs, les sentiments qu'elle ne m'a pas aimé, tout ça. Bon, je ne vais pas dire toute mon histoire, mais ce n'est pas très joli. Mais quand même, de dire que j'avais un grand problème. Et même en étant chrétien, c'est toujours, je dis, oh, mais Seigneur, il faut aimer ses parents. Il faut honorer ses parents. Il y avait la loi. Et souvent, je lis dans la Bible, il faut honorer son père. Oh, mon père, j'aimais bien mon père. Mais bon, il est décédé maintenant. Mais après, il dit, et ta mère. Oh, mince. Et ta mère. Moi, j'aime mon père. J'ai la moitié. Et après, quelquefois, il y a des relations très, très légalistes par rapport à la parole. De dire, oh, mais par obligation, je dois aimer ma mère parce que c'est un commandement. Et si je veux vivre longtemps, il faut aimer son père et sa mère. Et donc, je faisais l'effort d'aimer ma mère. Mais tout le temps, les paroles, des pics, et après on se trouve dans des situations de tension, difficultés. Et il y a des raisons pour ça. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour ça quand je vois mon passé et tout ça. Mais à un moment, j'ai dit, moi, j'en ai marre, Seigneur. J'en ai vraiment marre de cette relation. Ça dure trop longtemps. Ça dure des années et des années et des années et des années. Et tout d'un coup, je lisais ce passage. Et j'ai dit, c'est moi le mort. C'est moi le mort. Et j'ai dit, ma relation avec ma mère est morte. Il y a quelque chose qui a eu lieu, qui a tué quelque chose là, et je peux faire tout ce que je veux, je peux serrer mes fesses et essayer d'être gentille, bonne chrétienne et tout ça, mais il y a un dysfonctionnement qui a besoin d'être touché. Et j'étais ce mort. Et après, j'ai dit, ah, fils unique de sa mère. Voilà, il y avait une mère dans cette histoire. J'ai dit, voilà. Il y avait la mère qui était là et qui était veuve, et ma mère, elle est veuve aussi. Et donc, voilà, il faut voir comment je vivais. J'étais dans un village, ça s'appelle Little Paxton. Et donc, nain, c'est un petit. Et donc, je sais que c'est pas biblique tout ça, mais c'est un tas de, quelquefois on est étonné, on dit, oh, mais un tas de choses, est-ce que tu me parles? Et un matin, je méditais ce passage. Et Dieu m'a vraiment parlé. Il m'a dit, voilà, tu as une situation relationnelle qui est vraiment mort. Et toi, dans ton affection pour ta mère, il y a quelque chose qui est mort. Et j'ai dit oui. J'ai accepté que voilà, je peux faire tout ce que je veux, mais il y a quelque chose qui a blessé là, qui n'est pas réglé. Et voilà, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Le Seigneur l'a vu, eut compassion. Et j'ai dit, oh, mais j'ai encore, comme j'ai dit, mais personnellement, j'ai senti que Dieu m'a donné à ce moment-là un moment de compassion. Voilà, je peux t'aider, je peux régler cette situation. Ne pleure pas. Et ce qui m'a frappé, c'était verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et après il dit, les gens qui le portaient s'arrêtèrent. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que par mes paroles, je véhiculais la mort. Il y avait un tas de circonstances qui portaient ce cercueil. Et ce cercueil, c'était ma relation avec ma mère. Et il y avait des circonstances qui portaient ça. Des automatismes, des paroles, même mes propres critiques. J'étais souvent très négatif quand je pensais au sujet de ma mère. J'avais un tas de pensées négatives. Et j'ai dit, mais voilà, Seigneur, que tu touches. Allez, touche mon cercueil. Et aussi, arrête ceux qui portent. Tous mes automatismes, toutes ces choses, toutes ces paroles, toutes ces critiques qui sortent de moi-même, change ça, que ça s'arrête. Et je pense quelque chose a eu lieu. Je pense quelque chose a eu lieu où le Seigneur m'a touché. Et si je partage ça ce matin, peut-être, bon, ça s'est pas fait juste comme ça. Il y a toute une réflexion après. Et bon, ça c'était quoi? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, c'est déjà 7 mois que je sais que je travaille. Je sais que quelquefois je dois arrêter de porter. Je dis aux gens, allez, arrête de porter ce cercueil. Arrête. Si je veux retomber dans quelque chose, je dis arrête. Et après, voilà, quelque chose s'arrête. Et peut-être on peut faire, si je partage ça, peut-être ce matin, s'il y a des automatismes en vous pour certaines situations, c'est possible de s'arrêter avec l'aide de Jésus. C'est possible de dire, je vais arrêter de porter ce cercueil. Je vais arrêter de porter ces paroles de mort. Et s'il y a d'autres personnes qui portent ça, parce qu'il y a aussi toute une complaisance quelquefois. Bon, après, je parlais avec mon frère au téléphone, et après, il y a tel et tel, et on se justifie. Et je dis, non, mais je vais refuser de faire ça. Je vais arrêter toutes ces choses qui portent la mort dans ma vie. Je vais essayer, surtout c'était des paroles pour moi et des pensées. Je vais essayer d'arrêter. Ou pas forcément moi essayer. Seigneur, touche le cercueil. Arrête-le pour moi, Seigneur. Et après, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et je me suis levé. J'ai dit, oh, je refuse d'accepter une relation dysfonctionnelle. Je vais aimer ma mère. Je veux que l'amour soit réveillé en moi. Je veux me lever et je veux aimer ma mère. Je veux l'aimer. Quelque chose est commencé à se lever en moi. Quelque chose qui était couché, aplati, qui était juste une sorte de tolérance dans cette maison, le minimum, le SMIC relationnel, voilà, l'obligation d'aimer parce que je suis chrétien, mince. Et je dis, mais j'avais rien en moi. Il fallait que Jésus me touche ça. Mais Seigneur, je veux me lever. Je veux me lever, Seigneur. Je veux vraiment que quelque chose soit ressuscité en moi, que tu ressuscites ma relation. Et après, il dit, Jésus le rendit à sa mère. Et je peux dire que depuis février, je vis une autre relation avec ma mère. C'est pas toujours facile. Quelquefois, il y a des pics, et je suis toujours vulnérable et tout le reste. Mais je sais que quelque chose est rené en moi. Je pense qu'il y a une affection vraie, un amour pour ma mère qui a été étouffée et tout ça, mais qui est rené en moi. Donc si je partage ça, c'est aussi l'Écriture pour nous parler très personnellement dans des situations très très personnelles et de vous encourager aussi à laisser la parole de Dieu vous donner un nouveau départ quelquefois. Moi, je ne cherchais pas forcément. Hein, quelquefois, on est étonné. Il y a un temps. Dieu, il a un temps pour nous. Il y a un temps pour une fleur de s'ouvrir. Hein, ça faisait peut-être... Ça fait plus que 30 ans que je suis chrétien. Et donc, j'ai eu 30 années pour régler toutes ces choses avec ma mère. Je savais que c'était là, que ce n'était pas parfait. Et donc, en 30 années, ça allait. Bon, je ne l'ai pas frappé, mais bon, c'était loin. Et je sais que... cette année qu'il y avait un renouveau, quelque chose qui a commencé dans la relation avec ma mère, que Dieu me donne vraiment de l'amour pour elle. Et je peux dire que j'aime ma mère vraiment, peut-être je l'aurais dit avant, j'aime ma mère, bien sûr, tout chrétien doit aimer sa mère, tout fils doit aimer sa mère, mais là je peux dire oui, j'aime ma mère, j'ai de la compassion pour elle, je veux la bénir, vraiment, ça me rend vulnérable quelquefois. Mais je pense qu'il y a une guérison que Dieu a opérée. Et donc, Jésus le rendit à sa mère et Dieu a visité son peuple. Donc là, c'est un petit témoignage que comment Dieu, bon, il faut qu'il continue de me visiter. Hein, il faut continuer que de projeter son ombre sur moi, sur mon cœur, sur le passé, mais qu'il puisse faire ça pour nous tous ce matin, que Dieu nous visite, qu'on puisse sentir son ombre. Et cette ombre n'est pas juste mystique, cette ombre peut être aussi sa parole en nous, vraiment sa parole qui commence à apporter une guérison, une parole qui est reçue comme dans la terre, une parole fraîche. Et quand Dieu te regarde ce matin, il a compassion de toi. Le regard de Dieu est là avec une grande compassion. Et voilà, ne pleure pas. Et Seigneur, je vais prier. Seigneur, je veux prier ce matin que tout ce qui est mort en nous, Seigneur, tout ce qui est mort, Seigneur, que tu puisses nous toucher, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'arrêter le cercueil. Seigneur, d'arrêter le cercueil. Seigneur, là où les choses portent des paroles négatives, les paroles de mort. Oh Seigneur, arrête. Arrête la parade d'un côté de tout ce qui est négatif, Seigneur. Mets ta main et arrête. Arrête l'enterrement. Arrête l'enterrement des relations. Et Seigneur, que tu puisses donner une autre direction. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oh Seigneur, qu'on puisse se lever au début de cette rentrée, Seigneur, dans une nouvelle espérance dans notre vie, Seigneur. Et je veux, ce matin, je veux bénir ma mère. Merci, Seigneur, que Seigneur, c'est d'un côté, c'est un fils avec sa mère. D'un côté, c'est tellement normal d'avoir de l'amour et tout ça. Et tu vois combien, Seigneur, j'ai été handicapé pour trop d'années, Seigneur. Et je te redonne tout cela encore, Seigneur. Et je te dis, Seigneur, que tu souffles encore sur ces petites braises qui émergent pour que l'amour que j'ai pour ma mère puisse encore grandir. Et que tout ce qui a attaqué ça, tous les péchés, tous les abus, toutes les choses du passé, puisse être arrêté, Seigneur, totalement. Et Seigneur, qu'il y a une libération. Et je veux bénir, Seigneur, mes frères et sœurs ici ce matin. Seigneur, que ta bonne main touche leur vie aussi, Seigneur, et qu'ils soient bénis. Ne pleure pas, ne pleure pas. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. Et donc, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.